L'émir du Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, est arrivé à Téhéran et a été accueilli par le premier vice-président iranien. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, avait annoncé lundi que l'émir du Qatar allait effectuer une visite en Iran pour faire suite à la visite du président Ebrahim Raïsi à Doha. Des discussions autour d'enjeux régionaux et internationaux sont prévues à l'ordre du jour de la visite de l'émir du Qatar à Téhéran, a ajouté Saïd Khatibzadeh. Quelle est l'importance de cette visite dans la conjoncture actuelle?
Alors, cette visite de l'émir du Qatar à Téhéran est effectivement intéressante et mérite d'être relevée. Un peu de contexte pour nos téléspectateurs. Il y a encore quelques années de cela, et alors même que la République islamique d'Iran et le Royaume d'Arabie saoudite avaient rompu leurs relations diplomatiques suite à l'exécution du cheikh Al-Nimr, une grande figure locale dans la région est du royaume, et ce, sans que ses droits fondamentaux aient été respectés. L'Arabie saoudite est ensuite rentrée dans une confrontation assez intense avec le Qatar, sur fond de rivalité au sein du monde sunnite entre le frérisme et la branche wahhabiste, donc au sein du sunnisme. Et on a pu assister à des joutes verbales, diplomatiques, dans les médias assez prononcées. On peut penser que dans le contexte de l'évolution régionale qui voit, si je puis dire, l'Arabie saoudite essayer de trouver des pôles alternatifs en termes d'alliances et de partenariats. La réconciliation au sein entre les deux poids lourds du Conseil du Golfe, hein, donc le Qatar et l'Arabie saoudite, a eu lieu il y a de cela environ un an, marqué par une visite officielle donc de l'émir du Qatar à Riyad, reçue en grande pompe par le prince héritier. Mais on se souvient à l'époque qu'effectivement il y avait eu des menaces, même militaires, si je ne m'abuse, et la Turquie était intervenue pour déployer, si je ne m'abuse, un navire maritime ou une brigade, en tout cas, bon, pour protéger le Qatar éventuellement d'un. Voilà, d'une. Entre-temps, la République islamique d'Iran avait fait preuve d'initiative en renforçant ses liens avec le Qatar, en assurant ce dernier que, au nom de l'unité islamique, tout serait fait pour non seulement ne pas isoler le petit émirat, mais aussi, pourquoi pas, contribuer au rétablissement des relations bilatérales entre Doha et Riyad. Donc, dans ce contexte-là, vous l'avez évoqué, nous avons eu maintenant un changement de paradigme radical en termes des livraisons énergétiques, non seulement en Europe, mais aux États-Unis. Le Qatar, entre-temps, a obtenu un statut privilégié comme allié stratégique de l'OTAN. Et cela fait suite aux événements en Ukraine, bien sûr, vous l'aurez deviné, où maintenant l'Occident se trouve dans une situation où, alors même qu'il s'impose à eux-mêmes quelque part les sanctions qu'ils prétendent imposer à la Russie, l'idéologie, enfin le lobby idéologique, les forces malgré tout à réaliser que sans substitut, ce serait presque impossible de couvrir leurs besoins. Et c'est là que, en toile de fond, on a l'accord sur le nucléaire iranien qui, tout d'un coup, revêt une luminosité particulière, puisque les Occidentaux, dans cette recherche de substitut, aimerait bien pouvoir compter sur des ventes par l'Iran de son pétrole. Après avoir initialement essuyé un refus, dans le sens où, de toute façon, pour l'instant, et tant qu'un accord n'a pas été trouvé qui soit de nature à respecter les demandes des uns et des autres, l'Iran a jugé prématuré de s'engager dans ce genre de pourparlers. Une démarche similaire avait été effectuée auprès de Caracas, qui, dans la même logique mais sur des termes différents, avait et conduit donc Washington. Donc, l'Occident essentiellement avait tablé sur le Qatar afin que ce dernier substitue, enfin remplisse tous les manques énergétiques qui échouaient à la Russie jusqu'à très récemment. Sauf que l'erreur de calcul a été que le Qatar leur a dit non, mais nos contrats. Pour aussi loin que puisse voir les yeux, si je puis dire, sont essentiellement en grande partie conclus avec la Chine et nous n'avons pas les moyens d'augmenter la production, donc en tout cas pas dans les délais où ce serait requis. Donc c'est dans ce contexte-là que maintenant effectivement cette visite a lieu. Une délégation avec effectivement un secteur économique. Donc, on peut subodorer que dans ce contexte-là, le Qatar ayant besoin, si je puis dire, de pouvoir dire aux Occidentaux qu'il y a peut-être une solution en termes de livraison. Et que voilà, la relation bilatérale avec l'Iran étant relativement bonne, il y a peut-être possibilité dans ce contexte-là de jouer un rôle facilitateur dans le contexte de l'accord sur le nucléaire. Rappelons encore une fois pour les téléspectateurs que les demandes de l'Iran sont en fait assez simples, elles n'ont jamais varié. C'est une garantie que toute prochaine administration américaine ne se retirera pas à nouveau unilatéralement du traité et que, si je peux dire, le cœur de l'accord sera limité aux activités nucléaires civiles de l'Iran et en aucun cas. Ne s'étendra à des chapitres qui porteraient sur la capacité balistique de la République islamique ou son influence présumée sur telle ou telle faction au sein de la région. Voilà. Donc, c'est jusqu'à présent ce qui a, en tout cas dans le cadre de l'accord sur le nucléaire, freiné ce qui était pourtant là. Promesse de campagne phare de Joe Biden, à savoir rétablir l'accord. Et la situation internationale maintenant fait que cet accord, plus que jamais, les Américains en ont plus besoin que la République islamique d'Iran, quelque part. Donc on peut penser que, effectivement, si l'émir du Qatar est venu avec toute une cohorte de conseillers économiques et d'investisseurs, c'est qu'il doit y avoir matière à penser que le Qatar se présente, en tout cas, comme quelqu'un, une entité qui va faciliter, en tout cas, les négociations sur l'accord sur le nucléaire. Et ça, le temps nous le dira, mais de toute évidence, maintenant. Il s'agit pour les Occidentaux, si je puis dire, d'essayer de rattraper le coup après avoir sous-estimé, on va dire, la capacité pour la Russie à encaisser les coûts en termes de sanctions, à telle enseigne que les Occidentaux, et plus principalement la Commission européenne, en sont réduits maintenant à passer des trains de sanctions qui. ont vocation à placer sur ces listes les compagnies d'assurance de toute comment dirais-je, qui assure donc le transport pétrolier de la Russie vers l'Inde ou de la Russie vers la Chine. On a d'ailleurs vu dans ce contexte-là que les armateurs grecs, par exemple, qui sont vraiment les vrais décideurs en Grèce, hein, ce sont eux qui font, ce sont les faiseurs de roi, ont eux-mêmes été mis sous pression par Bruxelles de ne pas assurer certains contrats qui pourtant sont existants et qui doivent être exécutés à la lettre. Et ils ont mis la pression sur le Premier ministre grec pour lui faire comprendre que cela n'arriverait jamais. Donc, vous voyez, à travers ce panopticon occasionné par la crise en Ukraine, on s'aperçoit qu'il y a des ramifications à tous les niveaux, parce que, encore une fois, ça semble assez basique, mais ça semble avoir malheureusement échappé aux élites occidentales et surtout à la classe politique européenne dans son ensemble. Sans énergie, il ne peut y avoir une économie qui fonctionne, et que dans ce contexte-là, le piège s'est refermé sur eux.